voix nue. Cette semaine, Pauline Chanu rencontre Pierre Rabhi. Ce soir, semer l'agroécologie. Pierre Rabhi, vous êtes paysan, philosophe et poète. Vous avez consacré votre vie et une vingtaine d'ouvrages à la promotion d'une agriculture biologique et respectueuse de la terre. Hier, vous nous avez raconté comment vous avez mis en place ce que vous appelez votre utopie, votre installation dans les Cévennes ardéchoises quelques années après votre arrivée en France. Ce soir, nous allons parler de la manière dont votre ferme est devenue un modèle d'agriculture biologique. Alors pour commencer, pourquoi vous parlez toujours de vous comme d'un paysan et non pas comme d'un agriculteur ?
Parce que c'est celui qui tient le pays et qui est tenu par le pays. Et moi, c'est donc une étreinte. Moi, je me sens relié à cette terre qui n'était pas ma terre natale, mais qui est ma terre d'adoption. Et elle m'a adopté. Et je l'ai adopté. Donc il y a une étreinte entre nous, en quelque sorte. Moi, j'ai amené à cette terre ce que je pouvais pour, à travers l'agriculture biologique, justement écologique. Réellement, nous l'avons enrichie. Réellement. Nous avons fait une terre fertile d'une terre qui était classée parmi les terres médiocres. Parce que nous avons choisi, non pas d'acheter des sacs d'engrais et de les répandre, parce que nous avons choisi de la cultiver en prenant en compte ce que la nature a mis en place, c'est-à-dire la nature a pu se perpétuer parce qu'elle a su recycler le tout. Et la formule de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, peut être appliquée à notre démarche. Soit vous prenez une terre comme un substrat dans lequel vous mettez des substances pour faire pousser, chimiques, de synthèse en principe, d'une façon générale, soit vous partez sur les principes de la vie telle qu'elle s'est établie depuis les origines. Tout ce que la vie crée, et là, cette intelligence de le recycler. L'agriculture dite biologique s'inspire de ce principe. Par exemple, vous avez des déchets, très concrètement, vous avez des déchets, vous avez des animaux qui donnent du fumier, vous avez des déchets végétaux, et cela, vous le mettez en fermentation particulière qu'on appelle compostage. Ce compostage aboutit à faire fermenter cette matière, fumier, paille, etc. Et vous la faites fermenter d'une certaine façon. On appelle ça le compostage. Donc c'est une science aussi. Et qu'est-ce que vous obtenez à la fin ? Une matière qui est, on pourrait dire, humique, c'est-à-dire humus. Et l'humus, c'est l'élément par lequel la vie a pu se perpétuer. C'est pour ça que humus, humanité, humilité, c'est un peu les mêmes étymologies. Parce que l'humus, c'est quelque chose que la nature produit naturellement. Alors on peut imaginer les choses, l'arbre pousse, il y a des feuilles qui tombent, les feuilles qui tombent rentrent dans un système de transformation avec des bactéries, enfin toutes sortes d'insectes, et ça fait un élément clé qu'on appelle l'humus. Cet humus restitué à la terre redonne la dynamique de la vie. Et c'est le défaut de l'agriculture moderne, c'est qu'on a, au lieu de fonder sur l'humus, c'est-à-dire le recyclage de tout ce que la nature produit, on va chercher des substances, à mon avis, toxiques. Et ces substances toxiques qu'on met dans la terre, comme si la terre n'était plus qu'un substrat dans lequel nous mettons ces substances. Seulement ces substances ont l'inconvénient de tout détruire. Il n'y a plus une seule bactérie, ça empoisonne les vers de terre, ça empoisonne tout ce monde bactérien qui entretient la vie. Et ben nous, on fait de l'agriculture biologique.
Pierre Rabhi, vous avez structuré votre pensée écologiste, surtout à partir de l'expérience dans votre ferme de Montchamp. Mais il y a aussi des ouvrages, des penseurs qui ont été fondamentaux pour vous. Il y a un ouvrage que vous citez souvent, c'est « La planète au pillage » de Fairfield Osborne, qui date de 1949. Pourquoi c'est un livre important ?
C'est un livre immense parce qu'il fait prendre conscience à l'humanité de l'impact négatif qu'elle a sur la planète. C'est-à-dire que nous sommes, qu'on le veuille ou non, une catastrophe écologique. La plus grande catastrophe écologique, c'est l'être humain. Et depuis les origines, c'est un destructeur de forêts, c'est un destructeur de la vie elle-même. Aujourd'hui, on s'extasie devant les pyramides, devant ceci et devant cela, sauf qu'on oublie complètement que c'est en déboisant, c'est en dégradant qu'on a fait toutes ces choses-là. Et Osborne avait raison scientifiquement de mettre en évidence que l'être humain dégrade la vie. Et donc il avait attiré l'attention avec son livre La planète au pillage, salué par Einstein, salué par Devoto, salué par des grands penseurs de l'époque, en disant voilà un livre essentiel que tout le monde devrait lire parce qu'il expose clairement l'impact de l'humanité sur le système vivant.
Et il y a un autre penseur qui a été fondateur pour vous, c'est Rudolf Steiner, qui a fondé le courant de l'anthroposophie. Il est principalement connu pour sa méthode pédagogique alternative dont sont issues les écoles Steiner, mais il est aussi à l'origine d'une méthode agricole qui s'appelle la biodynamie. Qu'est-ce que l'anthroposophie et qu'est-ce que vous, vous êtes allé puiser là-dedans? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le courant de Steiner?
Alors, dans les préceptes de Steiner, je n'ai retenu que l'agriculture. Je ne suis pas rentré dans les autres domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit autrement. On peut résumer les choses avec Steiner, c'est de dire que il n'y a pas que les énergies visibles, il y a des énergies aussi invisibles. Et c'est pas parce qu'on dit énergie visible que c'est de la sorcellerie. Au lieu de s'en tenir simplement à la matière et à la substance, on intègre aussi l'énergie comme facteur, agissant sur la réalité vivante. Et donc, à ce moment-là, on dit il faut mettre des préparats spéciaux qui sont préparés selon des conjonctions astrales particulières. Et ça fait sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie parce que les conjonctions astrales, c'est connu. Je veux dire, les étoiles se positionnent, la lune, le soleil, tout se positionne en fonction d'un certain contexte et de certaines conjonctures. Donc c'est pas de la sorcellerie. Et aujourd'hui, on dit pas que c'est de la sorcellerie que d'avoir des portables avec des ondes, etc., etc. Donc seulement eux, ils ont été un peu précurseurs de cette idée selon laquelle il n'y a pas que les effets que nous pouvons aborder, mais il y a que des effets que nous n'abordons pas encore, mais qui petit à petit se révèlent, la science les révèle petit à petit. Donc prendre cette notion d'énergie et la mobiliser dans la dynamique de la vie, la biodynamie et en dynamique de la vie, et ça consiste très simplement, si on veut rester sur le plan strictement élémentaire, ben vous avez des préparations qui sont faites selon des conjonctures précises. Ce sont des substances qui ont été fermentées d'une certaine façon selon la conjonction astrale. Et c'est vrai que j'ai fait moi aussi des essais avec les préparats préconisés par Rudolf Steiner dans un compost en fermentation. Et j'ai fait aussi des expériences sans préparat. Et il est évident que ça opère. Voilà.
Vous nous l'avez raconté hier, lorsque vous vous installez dans les Cévennes pour fonder votre ferme écologique, vous passez pour un original, parce qu'à ce moment-là, tous les paysans désertent vers la ville pour aller chercher un emploi plus rémunérateur. La mode est alors à l'exode rural et les agriculteurs qui restent favorisent largement le modèle intensif, encouragé par la toute nouvelle politique agricole commune. Mais 10 ans plus tard, il y a un nouveau mouvement qui naît avec Mai 68, un mouvement anticapitaliste, libertaire, et vous voyez alors arriver ceux qu'on a appelés les néo-ruraux, qui font à leur tour leur retour à la terre. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce mouvement?
Disons que moi, j'associe toujours Michel, bien sûr. Nous n'étions pas du tout, dans ce mouvement. Pas du tout, puisque nous sommes des précurseurs en quelque sorte. C'est en 61 que nous avons fait notre 68. Et au moment où 68 est arrivé, a explosé, si on peut dire, chaque fois les groupes avaient une affiliation avec telle ou telle philosophie, marxiste ou autre. Enfin, tous les courants étaient un peu représentés, libertaires, etc., etc., sexuels, machin. C'était pas, disons, par cela que nous avons été animés. Mais par contre, quand il y a eu ce qu'on peut rappeler l'avènement de 68, j'ai eu beaucoup d'espoir en disant, tiens, ils ont compris. Sauf qu'après, tout ça est parti en vrille de partout. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'insister sur le fait, nous protestons contre la société telle qu'elle est, et ben chacun est allé chercher son gourou, qui Karl Marx, qui autre chose, bon, peu importe toutes les philosophies contradictoires, et on s'est mis dans une situation où la protestation qui aurait dû être unitaire, on est allé dans tous les sens. ce qui a provoqué encore aussi des dualités de principes, de doctrines, etc.
C'est drôle que vous employiez le mot de gourou parce que parfois, pour vous présenter, on parle de vous comme d'un gourou. Donc c'est un mot qui vous dérange, le mot de gourou?
Bah, je ne me sens pas du tout gourou et je suis pas du tout dans la gourutisation de la société. Je veux dire, j'ai pas, je ne veux pas m'agenouiller devant une pensée de quelconque. Par contre, je passe beaucoup plus sur une démarche qui serait une démarche libre de toutes ces doctrines pour arriver au connais-toi toi-même, ce qui me semble important. Parce que autrement, on peut être affilié à tel gourou, manger bio, recycler son eau, etc., et brimer sa femme ou son mari. D'ailleurs, ça peut être le contraire. Donc le problème n'est pas d'avoir un gourou, d'avoir etc. Le problème qui nous est demandé, c'est notre évolution propre pour que nous puissions construire à partir de notre intériorité des choix que nous ferons la paix sur cette planète.
Donc en mai 68, les néo-ruraux font à leur tour leur retour à la Terre. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre projet commence à intéresser, à susciter la curiosité? Est-ce que c'est à ce moment-là que les gens viennent voir ce que vous faites, vous, à Montchamp?
Oui, le mouvement de 68 a suscité évidemment une forme de protestation. Un des critères, c'était la société de consommation. C'est-à-dire que nous étions effectivement dans une époque, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, de la surabondance. On produisait, on produisait, on produisait. On occultait simplement le fait que c'est sans les matières et les ressources du tiers-monde, jamais on n'aurait produit cet excès. L'Europe étant pauvre en matières premières, elle a pas de pétrole, elle n'a rien du tout. Donc cette idéologie du changement de paradigme par l'abolition de la société de consommation reposait sur divers critères qui en fait ont très vite vacillé, quoi.
C'est à ce moment-là que les gens commencent à s'intéresser à votre projet et que vous commencez à accueillir des stagiaires dans votre ferme?
Oui, à peu près, oui. On avait accueilli un peu avant quand même, mais 68 a exacerbé la demande. On était considérés un peu comme des originaux, mais petit à petit, peut-être l'évolution sociale aidant, les gens se sont mis de plus en plus à s'intéresser à ce que nous proposions en termes de mode d'existence.
Vous avez mis en place tout un laboratoire dédié à l'expérimentation de l'agroécologie. Vous formez des agriculteurs un peu partout dans le monde, en Roumanie, au Maroc, en Tunisie. Il me semble qu'il y a eu une expérience particulièrement importante pour vous, c'est celle du Burkina Faso. Au début des années 80, vous avez créé avec Maurice Freund, pionnier du tourisme durable, le centre de formation en agroécologie de Gorom-Gorom.
Au commencement est quand même le CRIAD, Centre de Relations Internationales entre Agriculteurs pour le Développement. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange d'agriculteurs français qui voulaient être en solidarité avec la paysannerie du tiers-monde. Donc c'est commencé comme ça. Un ami qui était au CRIAD et qui m'a, Joseph Rocher, qui m'a en fait intégré, hein. Parce que dans ce qu'on entend par les agriculteurs, il n'y avait pas d'agriculteurs bio. Il y avait des agriculteurs conventionnels qui utilisaient les engrais, les pesticides, les semences sélectionnées, etc. Et donc je me suis trouvé un peu engagé comme ça, étant dans la zone Rhône-Alpes, le siège étant à Lyon. Ben un jour, Joseph Rocher m'a dit, est-ce que tu pourrais pas faire une mission? C'était encore la Haute-Volta. Et puis j'ai dit, pourquoi pas? Et ma mission consistait à aller transmettre l'agriculture écologique aux paysans qui étaient eux-mêmes pris dans le piège dans lequel les paysans français ont été pris, c'est-à-dire de la productivité à partir, disons, l'agriculture conventionnelle, des engrais chimiques, des pesticides, etc., pour produire, produire, produire. Ils étaient pris dans ce piège-là, de plus en plus endettés par l'usage même de ces engrais qu'ils ne pouvaient pas produire, évidemment, c'est la pétrochimie internationale qui a mis en place tous ces systèmes d'utilisation des engrais chimiques pour l'agriculture. Au lieu de les laisser continuer à survivre comme ils l'ont toujours fait, On dit, mais mon pauvre, t'as pas d'argent, etc. Il faut que tu gagnes de l'argent. Et comment je vais gagner de l'argent? Ben, produit des arachides, produit du coton, produit, tu vois. Et c'est comme ça qu'on les a dévoyés d'une agriculture d'autosuffisante dans laquelle ils suffisaient à leurs besoins depuis longtemps, à une agriculture de rente. Et à partir du moment où ils sont rentrés dans cette agriculture de rente, ben, ils se sont appauvris parce que passer par acheter les engrais qu'ils n'achetaient pas, s'endetter, l'endettement, enfin tout ce qui est venu pour finalement leur confisquer leur autonomie et les inciter plutôt à rentrer dans l'agriculture du marché international. Ils se sont mis, par exemple, en concurrence avec l'agriculteur américain qui dispose de centaines d'hectares et eux, avec leur petite surface, avec leur petit coton, ils rentraient en compétition et ils ont été écrabouillés, littéralement. Ils n'ont plus pu, le temps qu'ils consacraient à survivre, ils l'ont consacré à l'agriculture de rente et à partir de ce moment-là, ça a dégringolé.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez mis en place avec eux?
D'abord, priorité à la survie alimentaire. C'est pas le marché. Réhabiliter les connaissances des paysans, parce qu'on les prend pour des ignorants. Alors quand ils ont su vivre dans des territoires extrêmement pauvres et ils ont réussi à y vivre malgré les difficultés, c'est qu'ils avaient des connaissances et qu'ils s'étaient adaptés.
Thomas Sankara, qui était alors le président du Burkina Faso et ce leader révolutionnaire, vous remarque et vous confie un plan national de formation en agroécologie.
Il faut passer par l'épisode de la rencontre avec une compagnie aérienne qui s'appelait le Point Mulhouse, qui avait été fondée par une association alsacienne, qui était une compagnie totalement atypique. C'était des scouts qui un jour cautionnent, si je me souviens bien de l'histoire, cautionnent des amis qui avaient une petite compagnie aérienne auprès d'une banque. La banque dit, nous ne pouvons pas vous faire de prêt si vous n'avez pas de cautionnaire. Et le Point Mulhouse, qui était déjà une organisation de jeunes, de gens qui allaient creuser des puits en Inde et ailleurs, des démarches humanitaires, se porte caution. Mais eux, ils ont des avions, non pas pour faire simplement du commerce et gagner de l'argent, mais pour désenclaver des pays qui étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient même pas disposer de compagnies aériennes, qui étaient au-dessus de leurs forces. Et à ce moment-là, ils décident donc de créer une ligne aérienne qui part de France vers la Haute-Volta à l'époque. Et puis les billets d'avion sont très accessibles. L'Africain qui. Il fallait qu'il se ruine pour aller voir la famille, et ben, par le point, il y allait parce que c'était un tarif raisonnable. Et du coup, l'activité s'est développée, et l'Européen qui dit, ah, oh, ce tarif-là, moi, je vais faire un tour dans ce pays-là, puisque c'était à la portée, seulement se pose la question assez rapidement, il y a un tel flux, en particulier d'Européens qui arrivent sur la Haute-Volta, que se pose le problème, ils disent, nous, il vient trop de monde, on ne sait pas où les loger, on ne sait pas où les mettre, on n'a pas les infrastructures qu'il faut. Le point décide, toujours sous l'animation d'un grand ami à moi encore maintenant, puisqu'on s'est connus dans cette aventure, décide de créer des structures d'accueil de ce flux de touristes.
Votre ami, c'est Maurice Freund.
Maurice Freund. Et il crée des campements hôteliers. Ils en prévoient 6 ou 7, autant que je me souvienne, un peu dans toutes les zones du pays. Et la première, ou l'une des premières qui a été créée, c'est dans la zone la plus pénalisée, c'est-à-dire la zone nord, qui est la zone semi-aride où la désertification avance de plus en plus. Et ils se disent urgence là-bas. Donc ils créent le premier campement hôtelier. Belle architecture de terre, etc. Seulement, au bout d'un moment, ils constatent que ceux qui vont là-bas, dans ces structures, on pourrait dire ça se rapprochait un petit peu de Club Med quelque part. Alors, des Blancs, des Européens qui viennent dans ces campements festoyer au milieu d'une population qui crève de faim. Et d'un côté, les repas à la carte, et de l'autre côté, juste à côté, des gens, un bol de riz, c'est déjà énorme. Donc, moralement et éthiquement, c'était pas acceptable. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disaient, on rase tout, on n'a pas existé, etc. Et puis d'autres qui les retenaient un peu par la manche et en disant, mais il y a un type qui s'appelle Pierre Rabhi, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le voir? Donc je les vois débarquer chez moi. Et puis ils me disent, voilà, on a cette patate chaude, quoi. On ne sait pas quoi en faire, est-ce qu'on rase tout, est-ce qu'on fait, etc. Évidemment, ça faisait 3 ans que j'étais engagé et je leur dis, bah écoutez, non, puisqu'elle existe, ce serait dommage de la démolir, mais il faudrait une réforme importante, c'est-à-dire il n'est pas question de repas à la carte au milieu d'une population qui crève de faim, un repas modeste et ajusté à la réalité du pays. Et en même temps, ce que je vous propose, compte tenu que moi, je suis engagé dans la formation des paysans, est-ce qu'on ne pourrait pas, à la structure d'accueil, associer une structure de formation des paysans. Ce qui fait que l'argent dépensé par les visiteurs, dans un repas modeste, etc., servirait à former les paysans. Ainsi, il y a une solidarité qui se fait, c'est-à-dire que la personne qui vient séjourner, elle sait que son argent sert à promouvoir l'agroécologie comme étant une proposition importante. Et on a créé le centre de formation. Campement hôtelier, centre de formation à l'agroécologie. Et ainsi, ça nous a permis donc d'avoir une structure d'accueil des paysans qui viennent se former pendant une semaine, à charge pour eux, quand ils se sont formés, de retourner dans leur village et transmettre ce qu'ils ont appris avec l'agriculture écologique. On commence, ça se répand, etc. Les paysans expérimentent sur le terrain. Ils se rendent compte que le compost, c'est actif. Ils se rendent compte que le mode de travail qu'on leur propose, en partant évidemment des principes de l'agriculture écologique, est efficace. Et ils se disent, mince, alors je n'ai plus besoin d'engrais chimiques, j'ai plus besoin de tout ça. Donc je m'affranchis, je me ruine pas à acheter des engrais et enrichir les multinationales. Donc ça fonctionne très bien. On faisait venir à Gorom Gorom des représentants paysans de tout le pays, même quelquefois du Mali, etc., qui venaient se former, et donc comme ça que s'est propagée l'agroécologie. Et les paysans étaient si contents que Thomas Sankara, quand il arrive au pouvoir, bien plus tard, eh bien, examine les choses et dit qu'est-ce que c'est que ce rabbi? D'où il sort? Les paysans sont contents, etc., etc. Et il me convoque un jour en disant, voilà, monsieur Rabhi, nous vous remercions vraiment, les paysans sont extrêmement contents de ce que vous nous proposez, ils voient le résultat sur le terrain très positif avec vos méthodes, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas prendre carrément la gestion de l'agriculture sur notre territoire et promouvoir l'agroécologie sur tout le pays? C'est-à-dire de mettre en place un plan général pour la réforme agraire. Mais ça ne serait jamais venu si Sankara n'avait pas été lui-même un révolutionnaire. Et Thomas Sankara était un pur. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas lui reprocher un centime de détournement de quoi que ce soit. Alors qu'on sait très bien que l'Afrique est démolie et malmenée par la corruption des gens qui sont censés prendre soin de leur peuple. Au lieu de prendre soin de leur peuple, ils prennent soin de leur porte-monnaie et avec la complicité évidemment des États, de certains États du Nord. Il y a la corruption au Nord et au Sud. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même l'Afrique étant immensément riche, et il y a encore de la pauvreté, de la misère. C'est pas dû au manque de ressources, c'est pas vrai. Alors pourquoi ce continent, immensément riche et sous-peuplé, souffre de famine, de manque, etc. Ça n'a rien d'autre que la corruption. Et évidemment, cette proposition m'est tombée comme une tuile sur la tête. Hein. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, il a fallu un temps de réflexion pour donner une réponse définitive et sérieuse. Entre-temps, Sankara a été assassiné. Et c'est ça qui a stoppé, en quelque sorte, la démarche.
Et donc, vous avez dû quitter le Burkina Faso.
Alors j'ai quitté le Burkina Faso parce que j'estimais que j'avais d'abord le monde sans carême un peu chagriné. Et c'était devenu quand même quelqu'un avec lequel il y avait un rapprochement vraiment sérieux et intéressant. Et par ailleurs, ben, j'aspirais aussi à agir dans d'autres lieux.
Pierre Abiy, ce n'est pas anodin d'avoir quitté le continent africain à 20 ans et d'y retourner 25 ans plus tard avec un projet humaniste. Est-ce que vous sentiez que ce que vous aviez appris grâce à toutes vos rencontres, vous aviez envie de le mettre en œuvre pour le continent, votre continent natal?
Pas seulement le continent, c'est ce qui est proposé aujourd'hui, il doit être pris au plan planétaire. Parce que partout, l'agriculture conventionnelle détruit et appauvrit. Non, le principe, je l'ai appliqué beaucoup en Europe, déjà. Ben, en Europe, on a créé avec des amis, Terre Humanisme, l'Homme au début, avec ma fille, les Amanins qui sont dans la Drôme. Nous avons des mouvements comme les femmes semencières. Nous avons créé toute une stratégie diversifiée qui intervient de différentes manières, mais inspirée par les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Donc on n'est pas seulement que dans le continent africain. Et bien sûr, le continent africain crie au secours parce qu'il y a de la famine, etc. Et donc il pourrait y avoir, si les États avait ce souci, l'agroécologie pourrait être répandue très vite et les paysans ben, pourraient être des millions de paysans contents, au nord comme au sud d'ailleurs, parce que il faut pas séparer. En Europe, d'une façon générale, les agriculteurs battent les records malheureux de suicide, parce qu'ils se sont trouvés pris dans des pièges d'endettement terribles, d'un travail harassant avec des rentabilités extrêmement limitées, etc. C'est un phénomène vraiment planétaire. Moi, je suis plein de compassion. Je trouve qu'on les a mis dans des situations qui crèvent le cœur, hein. Mais ils se sont mis aussi dedans parce que c'est là où je reviens à la sobriété, c'est-à-dire en fait à vouloir des hectares, des hectares. Dès qu'il y a quelques hectares de libre, allez, j'achète, je reprends, etc. Et après, je constate que le tracteur n'est plus suffisant. Je me réendette pour avoir un plus gros tracteur, etc., etc. Donc, ils se sont mis dans ce traquenard où, s'ils avaient adopté justement la sobriété, la simplicité, la modération, ils ne seraient pas dedans. Et en même temps, il faut qu'ils produisent autrement que simplement des denrées pour l'industrie.
Merci beaucoup Pierre Abiy. Demain, nous aborderons avec vous la question de l'écologie politique et de l'insurrection des consciences.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pauline Chanut avec Pierre Abiy. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Éric Audra, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.